Dans le but de fournir une passerelle entre l'employeur et l'employé, la UFM vous propose tous les mardis
de 19h05
la YouJob. Un débat sur le sujet lié à l'emploi, des offres d'emploi et même des conseils.
Soyez les bienvenus à votre rendez-vous de chaque mardi soir. YouJob, la passerelle entre l'employeur et l'employé. Je vous avais dit qu'il fallait qu'on partage chaque mois, au moins une fois, des astuces, des conseils et surtout des tips sur les milieux et puis le processus de recrutement. Il y a encore beaucoup de personnes qui tentent leur chance, qui envoient des CV sans des réponses. C'est comme si on faisait en tout cas des prières dans le vide. Alors on a un spécialiste maison qui va revenir chaque fois, au moins une fois par mois, nous partager, vous partager surtout, vous qui êtes dans le besoin des conseils et des idées pour comment vous devez évoluer dans ces processus qui est assez compliqué. Donc aujourd'hui, j'ai un grand plaisir de commencer cette aventure avec Raymond Tema, à qui j'ai dit d'ailleurs déjà bonsoir.
Bonsoir, Stéphie.
Un plaisir de te recevoir dans YouJob. On va vraiment bénéficier de ton expertise et de ton expérience dans les milieux. Je rappelle que tu es spécialiste en matière de recrutement. Actuellement, tu évolues comme project officer à Sodeco Développement. Et si nous t'avons dans YouJob, c'est déjà aujourd'hui pour la thématique comment maximiser ses chances de se faire recruter dans notre pays. Vraiment, Moussa, les a pas si tôt de chômage, les a tellement l'icolo. Il y a des batouba tangui, à distinguer 5 fois l'université, mais vit dans un chômage, à Saint-Jacques. Donc, le milieu des marchés de l'emploi est vraiment compliqué et c'est cette question que nous abordons déjà aujourd'hui. Mais moi, je veux d'abord qu'on comprenne quelque chose, le processus de recrutement dans notre pays. Comment ça fonctionne?
Très bien, en tout cas. Merci pour cette opportunité. C'est vrai que c'est une question assez importante parce que je me rappelle même quand on a fini l'école, on se disait finalement qu'est-ce qu'on va faire? On est là sur le marché de l'emploi, mais comment est-ce que ça se passe? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs formes de recrutement. Il y a bien sûr un processus qui est plus ou moins standard, que toutes les entreprises, disons, sérieuses utilisent. Mais aussi, il y a des recrutements qui peuvent se faire d'une manière ou d'une autre. Mais prenons le cas un peu d'un recrutement standard. Okay? C'est parce que tout commence par le besoin au sein de l'entreprise. Quand l'entreprise évalue, s'il dit par exemple que par rapport à mes objectifs, il me faudrait augmenter ma production, ou bien peut-être faire une activité assez nouvelle, elle se dit, ben, quand je regarde mon effectif, je n'ai pas le profil qu'il faut. Qu'est-ce qu'on fait? Et ben, on se dit, on va faire un job description. Dans ce job description, qu'est-ce qu'on va faire? On va établir différents besoins, les genres de personnes dont on a besoin, les compétences, les capacités, les qualités, on va même les diplômes de ce dernier. Une fois que c'est validé par tous ceux qui doivent valider au niveau de l'entreprise, eh ben, l'offre est postée quelque part. Ça peut être sur les réseaux sociaux, sur le site de l'entreprise, etc. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que dans cette annonce, il y a effectivement des critères très bien établis. D'accord ? Des critères qui devraient, d'une certaine manière, être respectés par le demandeur d'emploi. Je vous donne un exemple. Supposons qu'on est en train de chercher un informaticien, d'accord? Qu'est-ce que va faire l'entreprise? Donc, cherchons un informaticien ayant plus ou moins des compétences dans Java, etc. On met tous ces éléments, effectivement, dans le job description. Et on va probablement aussi dire que ça doit être quelqu'un de qualifié. Mmh. Et on doit dire qu'effectivement, c'est quelqu'un de qualifié. Alors, lorsque tous ces éléments sont prêts et que l'offre est effectivement sur les réseaux, ce dernier, il fait quoi? Il applique. Quand il applique, il y a une première étape. C'est le tri. Lorsque nous recevons toutes ces quantités de CV, nous faisons le tri. Mais le tri peut être fait de différentes façons. Vous avez certains qui ont des logiciels automatiques qu'on appelle les ATS.
Donc, il y a des logiciels qui permettent de faire les tris.
Un tri automatique.
De tous les dépôts récoltés.
Yes, il y a tout à fait. Alors, ce logiciel est paramétré d'une certaine manière. Quand on dit qu'on recherche un informaticien, toute personne qui a effectivement mentionné probablement dans son CV ou dans son lettre de motivation qu'il est informaticien, qu'est-ce que va faire le logiciel ? Il va repérer cela. Si encore on demande au logiciel, toi, trie-nous seulement les personnes qui sont informaticiennes mais qui ont, disons, 5 ans d'expérience professionnelle, selon ce qu'a demandé l'entreprise, le logiciel ne va que trier les 5 ans d'expérience professionnelle. Donc, tous ceux qui auront probablement 3 ou 2 ou 4 ou 4 et demi ne seront pas pris en compte. Ça, c'est un premier tri hein, qui est fait au niveau du logiciel. Vous avez un autre tri, c'est pas les logiciels, mais ce sont des recruteurs eux-mêmes qui font ce tri-là. Alors, les recruteurs, en ce moment-là, ils peuvent estimer. Ils peuvent donner des notes. Hein. Il y a des notes que l'on donne effectivement selon les CV. Quand tu as 5 ans d'expérience, effectivement, tu as le maximum de notes. Quand tu as 4 ans, on suppose que tu as plus ou moins 80%. Quand tu as 3 ans, le quota diminue. Quand tu as 2 ans, effectivement, aussi, le quota diminue. Donc, après que le CV ait été effectivement évalué de cette manière-là et que ça semble intéressant aux yeux du recruteur, on vous convoque. Et maintenant, on vous convoque pourquoi ? Soit ça sera pour passer un entretien, ou alors ça sera pour passer des tests. Lors de l'entretien, effectivement, aussi, c'est essentiel pour le recruteur de savoir qu'est-ce que vous savez, qu'est-ce que vous allez apporter à moi, entreprise, pour résoudre le problème que j'ai. Parce que, rappelle-toi, j'ai dit, j'ai besoin d'un informaticien qui doit résoudre tel ou tel autre problème. Si, lors de l'interview, effectivement, on est convaincu par vos compétences, ou bien lors du test, convaincu par vos compétences, et bien, en ce moment-là, on vous fera une offre. Et si, par rapport à l'offre aussi, les conclusions sont intéressantes, et bien, ce dernier est appelé à commencer l'entreprise. Donc c'est... voilà un peu de manière simple hein, comment est-ce que ça se passe.
De manière simple et c'est la méthode classique, tu as dit, ça veut dire qu'il y a d'autres méthodes pour recruter.
Oui, il y a d'autres méthodes, mais le principe reste le même. C'est-à-dire, vous avez certains recrutements qui ne vont pas probablement suivre tous ces principes-là. Ça peut être sous forme de job fair, par exemple. Okay, vous êtes quelque part, nous faisons juste un recrutement par rapport à un besoin futur et tout et tout. Vous venez effectivement dans ce job fair. Juste une interview avec ce dernier, on se rend compte que vous avez des compétences intéressantes, c'est pas forcément votre CV, le recruteur peut se dire « Ok, nous allons avoir une prochaine entrevue avec vous. » Et sur cette entrevue, si vous êtes convaincant, vous pouvez effectivement aussi être recruté. Ou encore, vous avez certains qui font quoi ? Très simplement, hein, ils envoient juste des CV dans certaines entreprises, il n'y a pas un besoin, mais quand l'entreprise se rend compte que le CV de la personne est intéressant, le portfolio de la personne est assez pertinent, ce dernier aussi peut être rappelé, et si c'est concluant, il peut aussi commencer son boulot.
Je pense que ça devient de plus en plus clair. C'est la première émission. En tout cas, je pense qu'on va aller mollo pour bien expliquer les choses et que les choses soient bien comprises parce que YouJob, c'est en même temps pédagogique. On apprend énormément. Alors, on parle du processus de recrutement. D'abord, on comprend qu'il y a une entreprise qui a besoin d'un nouvel agent qui va proposer l'offre et de personnes intéressées à la recherche de ces postes vont postuler et il y a les tri qui peut se faire de façon digitale ou
des
spécialistes qui vont les faire et par la suite ceux qui sont sélectionnés peuvent passer par l'interview. Alors, les principaux acteurs à ces niveaux, c'est l'entreprise et les potentiels candidats qui peuvent finalement répondre à l'interview.
Oui, ce qui se passe au fait, l'entreprise en ce moment-là a déjà fait son travail. Moi, je lui dis que j'ai un besoin. Après, venez me prouver qu'effectivement, vous pouvez combler les besoins que j'ai. En ce moment-là, ce qui est intéressant, ce qu'il faut noter de la part du chercheur d'emploi, c'est d'essayer de changer son mindset. Okay? En anglais, on dit « shift the mindset ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Souvent, ceux qui recherchent dans l'emploi ressemble à une catégorie de personnes que l'on peut voir sur les rues de Kinshasa. Nous avons deux catégories. Nous avons ces personnes-là, par exemple, lorsque vous marchez sur le coin des rues, vous voyez des personnes qui viennent, qui disent « Papa, maman, s'il vous plaît, aidez-moi avec combien ?» Avec 500 francs.
Un mondial.
Voilà, un mondial. Ils demandent ce jour-là si tu as des fonds ou bien si tu es de bonne humeur. Qu'est-ce que tu fais ? Tu donnes cet argent, ok ? Mais de l'autre côté, il y a une autre catégorie de personnes. Ces personnes, toujours sur les coins de rue, eux, qu'est-ce qu'ils font ? De loin, quand ils aperçoivent quelqu'un, il regarde peut-être ses chaussures. Il se rend compte que ses chaussures ont de la poussière. Ils font quoi ? Lorsque tu arrives à proximité, papa, maman, tu ne peux pas aller au travail comme ça. Oui, Moussa l'a beau monter. Hier, il a fait un nini, n'a pas Moussa. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils résolvent, ils sont en train de résoudre un problème. Rendre tes chaussures plus attrayantes pour que tu sois, voilà, un peu plus, pour une dame, peut-être coquette au travail.
Plus coquette, plus élégant.
C'est-à-dire, ils sont en train de résoudre un problème. Pourquoi je prends cet exemple ? C'est à ça que ressemblent un peu les candidats aux yeux des entreprises ou des recruteurs. Lorsque vous venez tout simplement comme ça en disant voilà,
vous
moi je cherche
rien.
Un emploi, je soumets un CV sans proposer quelque chose, aux yeux du recruteur, si en ce moment-là il y a peut-être un besoin qui n'est pas si pertinent que ça, qu'est-ce qu'il peut dire ? Ok, d'accord, nous te prenons. D'accord ? Mais lorsque vous venez, vous vous rendez compte que l'entreprise a fait une demande. Mais vous analysez cette entreprise, puis vous vous rendez compte que c'est une entreprise dans un domaine X. Une entreprise qui peut-être, selon sa vision, aimerait atteindre tel objectif. Vous analysez et vous vous rendez compte que vous pouvez effectivement proposer quelque chose, montrer que vous êtes apte à faire quelque chose. Et bien dans ce cas-là, ça sera un peu plus intéressant, bien plus simple pour le recruteur ou bien pour l'entreprise de se dire « Ah !» Nous voyons quelque chose d'assez intéressant ici, essayons d'examiner en profondeur. Donc, dans ce cadre-là, c'est l'état d'esprit hein, que les chercheurs d'emploi devraient développer.
Alors, une réflexion, je pense, qui va d'ailleurs déjà dans le sens de répondre à la question du jour, comment maximiser ses chances de se faire recruter. Alors, c'est quoi l'idéal ? Quel est l'idéal ? Est-ce qu'il y a un schéma à suivre pour être sur la bonne voie et espérer maximiser ses chances d'être recruté aussi facilement, entre guillemets ?
Pour dire la vérité, il y a des chances pour améliorer ses chances, mais ce n'est pas de la magie, bien il n'y a pas une formule magique. Pourquoi ? Parce que vous devez savoir que les entreprises ont aussi leur réalité. Aujourd'hui, l'entreprise peut faire un besoin, une demande, mais peut-être une ou deux semaines après, une situation se passe. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils annulent la demande. Ils ne vont pas forcément communiquer sur le marché de l'emploi. Okay
et mais vous, le Bébotine, disons, ils reçoivent
et
aussi.
Et vous avez postulé, effectivement, mais vous, voilà,
il n'y a pas de retour.
Voilà, vous n'avez pas de retour. L'autre élément aussi à noter, c'est quoi ? C'est que dans les entreprises, nous avons un système de classification. Ça, c'est important à noter. Vous avez les employés de manœuvre, les employés semi-qualifiés, les employés, je crois, qualifiés, de maîtrise, cadre, etc. Lorsque vous voyez une offre, est-ce que vous vous posez la question, vous réfléchissez pour savoir c'est quelle catégorie. Si vous êtes un jeune diplômé, vous avez des compétences, vous avez une présomption de connaissances et probablement aussi vous avez des compétences, c'est vrai. Mais que vous postulez pour un poste de qualifié, l'entreprise ne va pas vous dire que c'est un poste de qualifié. Mais le job description, les activités que l'on demande peuvent vous faire comprendre « Ah, c'est un poste de qualifié ». Honnêtement, tu viens de finir les études par exemple, tu postules à ce poste, même si tu as distingué, mais que c'est un poste de qualifié, eh ben, l'entreprise risque de ne pas donner un feedback positif par rapport à cette candidature. Donc, il est important aussi, hein, au niveau de collaborateurs, des chercheurs d'emploi, de savoir analyser les offres pour savoir comment est-ce qu'ils devraient se positionner. En analysant les offres, comment vous devez positionner, c'est quelle catégorie ? En analysant l'offre pour comprendre c'est quelle entreprise, c'est quoi le besoin de l'entreprise, quelles sont les compétences que moi j'ai maintenant dont ils recherchent, quelles sont les compétences qu'ils n'ont pas mentionnées mais qu'en faisant de recherche je me rends compte que ça peut être une valeur ajoutée pour ce dernier.
Donc c'est d'abord un exercice qu'il faut faire, c'est pas qu'au menu offre directement tu te dis ah non j'ai un CV au modificable ou qui au tini balamor.
Non. En tout cas, quand vous faites ça, vous risquerez de passer comme juste une personne lambda. Mais lorsque vous savez agencer, ajuster votre CV par rapport à ce qui est demandé, les choses sont pertinentes. Je vous donne un petit cas. C'est un exemple qui s'est passé, je crois, c'est au niveau de la Belgique ou de la France. McDonald's était en train de recruter quelqu'un dans la communication. Je crois une communication digitale ou bien commerciale. Il y a eu plusieurs personnes qui ont soumis leur candidature. Et parmi ces personnes, il y avait beaucoup de personnes très intéressantes. Parce que rappelez-vous, quand on soumet, il y a beaucoup. Vous n'êtes pas la seule personne compétente hein, à vouloir. Vous êtes plusieurs.
Lorsqu'une offre est partagée
voilà,
sur le réseau,
c'est plusieurs personnes. Vous n'êtes pas la seule personne. Et ça, c'est un élément important aussi à savoir. Il y a des milliers de personnes pour un poste. Donc la sélection est assez rude. Il y avait plusieurs personnes compétentes. Comment est-ce que ce dernier s'est démarqué par son CV ? McDonald's fait quoi ? Ils vendent des fast-food. burgers, les snacks, coca, etc. sous plusieurs formats. Il fait un CV, rappelle-toi, impossible pour la communication. Il fait un CV dans lequel le CV apparaît comme une carte de menu. C'est-à-dire, là où vous, tu mets des boulettes normales, hein, des, tu vois, les points pour statuer les éléments. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il met, par exemple, les différents plats que propose McDonald's.
Bon.
Big Mac, tu vois, snack, double cheese, etc.
Mais est-ce que ce n'est pas aussi une question des cultures? Parce que peut-être que ça pourrait passer aux États-Unis, mais
non,
faire ça ici...
J'arrive.
Je vais pas citer les noms des entreprises. Je vais me faire recruter dans une brasserie. Je viens avec un CV en forme de bouteille.
Non, j'arrive. En fait, quand il l'a fait... C'était tellement innovant, même pour leur culture, parce que beaucoup d'en parlent, c'était tellement innovant que c'est sorti dans les médias. On ne demande pas à tout le monde d'imiter ça, mais quel élément intéressant à retenir? Ce qu'il a essayé de penser out of the box, en dehors, comment on dit ça en français? En dehors de...
De la boîte.
Voilà, il essaie de penser en dehors de la boîte. Et c'était quelque chose qu'il a démarqué de tout le monde. On ne va pas demander de faire la même chose pour Bralima, par exemple, voilà, ou bien pour Bracongo. Mais lorsque tu postules pour un poste commercial, que tu montres à quel point tu es réellement un commercial, pas en écrivant que je suis commercial, mais autrement, et bien cela peut te démarquer pour certains postes.
Et est-ce que ça, c'est un signe qui montre que la personne est compétente? Parce qu'on peut être conseillé, on peut être... on peut aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Peut-être qu'il a vu une innovation comme ça sur Internet, il vient, il ne fait que du copier-coller. Comme les recruteurs, on n'a jamais vu ça. Et est-ce que ça, c'est un... Ça fait quand même dire ou confirmer que le chercheur de l'emploi a un profil qui va avec ce que nous cherchons?
Ça ne confirme pas forcément, mais ça te donne des pistes, des indices intéressants à exploiter et à confirmer par la suite. Quand j'ai 5 CV, parmi les 5 CV, j'ai un CV qui fait ça, je prends ces CV-là. Mais comme d'habitude, dans un processus de recrutement, on prend une quantité. Dans certains entreprises, il te dit par exemple que je prends les 3 meilleurs CV pour faire un dernier test. Alors parmi les 5 CV que j'avais, je vois un qui fait ça. Je vois 2 autres qui sont standards, mais c'est pertinent. Qu'est-ce que je fais? Je prends les 3. C'est ensuite, lors des interviews, lors des tests, qu'on pourra effectivement remarquer qui était le plus pertinent.
Donc, c'est démarqué. Mais si je peux poser en clair cette question, qu'est-ce qui attire un recruteur? Déjà, au premier niveau, on n'est pas encore à l'interview, on est peut-être dans la sélection, mais même si cette question, on va revenir, pas forcément aujourd'hui, mais cette question de faire la sélection intelligente, donc parler digital et trier, et apparemment, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord en tout cas, parce qu'il y a certaines choses que la machine peut sélectionner, mais qui ne serait pas vraiment sélectionné si c'est l'intelligence humaine qui travaillait. Donc on reviendra, mais qu'est-ce qui attire aujourd'hui un recruteur? Est-ce qu'il y a un mot pour désigner cela?
En fait, les recruteurs cherchent qu'une seule chose, l'adéquation entre le CV et l'offre. Ce qu'ils recherchent, quand on parle d'adéquation, quand on demande des compétences telles, tel nombre probablement d'expérience, telle formation, et que le chercheur d'emploi a effectivement mentionné cela de manière structurée et agencée, eh ben, ce dernier, en réalité, a répondu à la première demande du recruteur. Ce dernier, qu'est-ce qui va se passer? Le CV sera présélectionné. Il ne sera pas recruté, il sera présélectionné. Présélectionné pour creuser, n'est-ce pas? Pour faire passer des tests, pour échanger avec ce dernier, pour voir si effectivement ce qu'il a mentionné là-bas qui correspondait à l'offre est effectivement ce qu'il connaît ou bien ce qu'il sait.
Ça, c'est clair, je pense. Je pense vraiment que c'est clair et ce qui est déjà compris dès le départ. Mais qu'est-ce que la plupart des chercheurs d'emploi ne comprennent pas?
Effectivement. En fait, la plupart des chercheurs d'emploi ne comprennent pas déjà que l'entreprise, ce n'est pas de la charité. C'est-à-dire qu'on ne va pas te prendre parce que tu cherches un emploi. Non, jamais. Presque jamais. On va te prendre parce que tu as des compétences pour résoudre un problème qu'ils ont. Et un moyen d'avoir ces compétences, effectivement, ça peut être probablement par rapport à ce que tu as appris, hein, que ce soit à l'école, à l'université. Ça peut être parce que tu as travaillé déjà dans ce domaine-là. Vous voyez? Alors, lorsqu'on remarque effectivement dans votre CV, ces éléments sont mentionnés, eh bien, cela... est plus intéressant pour le recruteur. Mais une question pourra venir, on dira oui, mais le CV n'est qu'une présomption de compétences. C'est vrai. Mais regardez, essayez de réfléchir aussi autrement. Je dis pas que le CV, j'ai dit qu'il y a plusieurs façons de recruter. Hein. C'est pas forcément le CV, sans on en discutera plus tard. Mais pour suivre une certaine logique, pour suivre une certaine structure, on ne peut pas recevoir tout le monde directement en interview ou par test. Il faut faire une présélection. Et cette présélection, c'est par rapport à un document. Mais comme je disais, le CV n'est pas forcément ce papier A4 ou bien ce papier-là est électronique. Votre CV peut être un portfolio que vous avez fait en vidéo. Voyez, votre CV peut-être une forme de lettre que vous avez écrite, mais de manière assez percutante, assez particulière, qui démontre comment peut-être vous avez résolu un jour un problème ou un certain sujet. Alors, ce sont des éléments, en tout cas, qu'il faudrait prendre en compte, hein, que je pense être assez important ou assez pertinent.
C'est tant qu'à, quand même, je vais essayer de l'épingler. C'est vrai, les entreprises, ce n'est pas l'église, ce n'est pas la compassion ou des œuvres de charité. Il faut que les compétences priment. Mais quelque part, est-ce que les recruteurs n'en font pas trop aussi? Parfois, un peu de clientélisme ou on est hautain parce qu'on est recruteur. Ça aussi, parfois, ça intimide. Ça minimise aussi les chances de certaines personnes compétentes de croire même, voire au dépôt de candidature, voire quand il y a une offre sur les réseaux sociaux partout.
De la même manière qu'il existe des candidats qui ne sont pas compétents ou qui ne sont pas du tout intéressants, de la même manière, il existe des recruteurs qui ne sont pas forcément...
Mais c'est quoi cette réponse?
Qui ne sont pas forcément compétents.
De la même manière qu'il y a des candidats qui ne sont pas compétents.
Pourquoi je dis cela? Parce que
ça c'est fort. Hein.
Cela nous aide à être équilibrés. On ne va pas tirer sur tous les recruteurs, qu'on ne va pas tirer sur tous les demandeurs ou ceux qui cherchent un emploi. Un recruteur qui connaît la déontologie, okay, qui sait comment est-ce que les choses se passent, qui a certaines valeurs, peu importe sa personnalité, peu importe son style, hein, va suivre une forme de processus. Processus qui a fait ses preuves, hein, processus plus ou moins scientifique. Si au cours de ce processus, un candidat va jusqu'à la fin et que c'est pertinent, il n'y a pas de problème. Vous voyez, c'est pertinent. Si pendant ce processus, ce dernier n'a pas été sélectionné, ce sont des choses qui arrivent. Mais quand quelqu'un n'a pas été sélectionné, cela ne veut forcément pas dire qu'il n'est pas bon. Ça, c'est un point important. Qu'est-ce que ça veut dire? Probable peut-être que vous êtes overqualified. C'est-à-dire quoi? On se rend compte que vous avez fait votre CV, c'est bien. Mon entretien se rend compte que vous êtes tellement compétent que le poste qu'il vous faut, ce n'est pas ce poste-là, c'est le poste du chef ou bien de celui qui vous recrute.
C'est une menace pour la personne qui vous recrute alors.
Ce n'est pas forcément une menace. C'est-à-dire
la concurrence.
Oui, ce n'est pas forcément une menace, mais ça veut tout simplement que vous n'êtes pas à votre place. Il vous faut mieux que ça. Dans ce cas-là, vous ne serez pas probablement recruté. Certains recruteurs vous diront merci beaucoup et tout, mais nous rendons compte par exemple que voilà, vous serez plus à l'aise ou bien plus épanoui dans d'autres environnements. D'autres personnes, c'est tout simplement parce que peut-être ce jour-là, il n'a pas su se défendre correctement, alors que c'était quelqu'un de compétent.
Ouais, pourquoi veut se défendre? C'est une question des humeurs aussi.
Peut-être qu'il était stressé. Voilà, oui, peut-être qu'il était intimidé aussi, vous voyez ce que je veux dire.
C'est une question d'intimidation.
Alors, c'est là où j'arrive. Non, vous savez, vous avez plusieurs sortes, effectivement, de recruteurs. Vous avez des recruteurs plus ou moins sympas, super stricts, etc. Et ça, on verra ça plus tard. Il y a des techniques, au fait, qu'elles pouvaient développer pour savoir faire face aux différents types de personnalités et même aux différents types d'entretiens. Certains vont des entretiens où c'est sous forme d'échange. Hein. On discute. Vous ne vous rendez même pas compte que c'est un entretien. On discute. Ces genres d'entretien rendent souvent certains à l'aise. D'autres, c'est un peu comme à l'armée. Et puis, ça dépend du poste. C'est des questionnements, hein, et autres. Alors, peu importe le système ou la décision ou le style, hein, ou les styles, hein, d'interview que vous trouvez au processus de recrutement, il est possible de développer, hein, des techniques et des stratégies pour arriver à faire face à ces genres de recrutement ou de processus de recrutement.
C'est tout un schéma en même temps. Il y a beaucoup d'éléments qu'il faut tenir en compte, non seulement au niveau de l'innovation, de la présentation de ton CV, c'est parce que c'est la première étape avant de se faire sélectionner, et même au niveau de l'interview, il faut savoir gérer ses émotions, ne pas se faire intimider, avoir de la présence. Tous ces éléments rentrent en compte. Et quand est-ce qu'on peut se permettre de postuler?
En général, c'est lorsque vous vous rendez compte que, disons, vous avez un bon nombre. Je ne vais pas donner un seuil en termes de pourcentage, parce que là, ça sera pas réaliste. Mais lorsque vous vous rendez compte que vous avez les compétences qui vous permettront de travailler dans cet environnement, de résoudre ce problème, sans que quelqu'un soit toujours nécessairement derrière vous, à vous apprendre les choses ou bien vous dire comment faire.
Alors, je pense que je vais juste poser une question par rapport à ce que tu venais de dire, venir résoudre le problème de l'entreprise. Alors que stratégiquement, le vrai problème des entreprises ne sont pas vraiment exprimés publiquement. Et quand une personne postule, il vient par rapport à sa connaissance générale, à ce qu'il maîtrise, son expertise. Et forcément, ce n'est pas le problème qu'il peut venir rencontrer au sein d'une entreprise.
Le problème dans ce contexte, ce n'est pas le problème en termes généraux de l'entreprise. C'est-à-dire le problème qu'il y a dans le poste en question. Quand je parle de problème, ce n'est pas un truc impossible. Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire, on a besoin de quelqu'un qui doit savoir installer des logiciels dans un ordinateur. C'est ça le problème. Vous voyez? Alors, il faut que moi, je sois capable de faire quoi? D'installer. Moi, je ne suis pas censé juste être un informaticien qui ouvre un ordinateur. C'est ça que je sais faire. Non. On te dit, le problème qu'il y a, c'est qu'il faut quelqu'un qui installe les ordinateurs, les logiciels. Mais il doit l'installer, par exemple, par jour, il doit nous installer peut-être 20 logiciels. Si vous êtes lent, par exemple, à cette installation, lors du test, on se rend compte que vous avez pris une heure. Bon, je ne sais pas, ça, c'est juste un exemple. Je ne sais pas combien de temps ça prend pour installer un logiciel, mais si pourtant que vous avez pris plus de temps que prévu, qu'est-ce qui va se passer? Vous savez installer, mais vous n'êtes pas à la hauteur. Donc le problème n'est pas l'entreprise est en faillite, non, c'est pas ça le problème. C'est que dans ce poste-là, est-ce que tu es capable de le faire avec peut-être, disons, bon, pas toujours, hein, un minimum d'effort ou bien un minimum de supervision. Mais c'est qui est vrai. Lorsque vous avez les bonnes compétences et les bonnes aptitudes, l'entreprise peut aussi décider de vous accompagner, ok, de vous former. Mais l'entreprise ne vous forme pas toujours comme ça. Vous devez vous-même manifester quoi? Les bons états d'esprit ou déjà avoir
une certaine base, ça c'est vrai. Mais en tout cas, on ne va pas se cacher qu'il y a l'une des réalités que l'on rencontre dans le milieu, dans le marché de l'emploi, dans notre pays, et qu'on tente partout. Et là où ça va marcher, voilà, ça marche, on reste là. Quand vous trouvez, en tant que recruteur, comment vous trouvez ces cas? C'est-à-dire de gens qui tentent quand même partout. Parce que les marchés, il est compliqué. Là où ça va aller, ça marche. Et puis ça peut arriver, puis qu'ils ont chance de sourire. Ils se retrouvent...
Tenter partout, effectivement. C'est, comme j'ai dit, il n'y a pas de mauvaise façon de faire. Mais il y a des façons de faire plus avantageuses. C'est-à-dire, quand quelqu'un tente partout, il a le droit, ça peut effectivement marcher. Mais si en tentant partout, il essaye de faire les choses de manière un peu plus peut-être structurée, ok? Il s'est dit par exemple, voilà, moi je cherche un emploi, ok? Quels sont les éléments de base qu'on recherche, que tout individu devait avoir? La capacité de savoir faire quoi? Lire, écrire, ok? S'exprimer probablement correctement. Maintenant, imaginez-vous à ça, il ajoute par exemple la capacité à bien utiliser les outils technologiques et administratif, ok? C'est un profil qui a déjà des très bonnes bases. Donc, peu importe là où il va appliquer, si on se rend compte que, ah, il a le bon état d'esprit, il a cette faculté d'adaptation, il sait utiliser Word, Excel et Internet, mais les postes d'assistant administratif, de gestionnaire, par exemple, de gestion administrative et tout ça, qui peuvent évoluer avec le temps et avec l'expérience, eh bien, c'est des postes qui, effectivement, pourraient vous se voir offrir à vous.
Ça, c'est bien. Parce qu'en même temps, il y a cette question qui est évoquée de savoir où tu postules, ta cible. C'est pas quand même n'importe où tu pars. Et cette réalité dans notre pays, d'être tenté un peu partout. Donc le problème, c'est de savoir travailler sa polyvalence. Quand tu veux que tu vas à gauche, ok, tu fais un effort d'être gaucher.
En fait, ce qui est vrai, c'est que il y a des compétences qui ne sont pas, qui ne sont pas forcément des compétences qu'on doit avoir parce qu'on a fait des études X, Y, Z. Il y a des compétences générales voilà, que quelqu'un qui s'est dit professionnel devrait avoir. Si vous avez effectivement ces bases-là, ces compétences-là, pour un poste qui n'est pas exigeant, il est possible effectivement que vous soyez recruté sur base de ça. Mais là, on ajoute un concept aussi qu'on appelle souvent les soft skills, les compétences douces. Quelqu'un peut avoir des compétences basiques, c'est-à-dire que voilà, je sais utiliser Word et Excel. Mais l'interview, par exemple, c'est quelqu'un qui arrive à communiquer avec aisance. Okay? C'est quelqu'un qui arrive peut-être, qui a un esprit critique, qui arrive à analyser les choses. C'est quelqu'un qui arrive facilement à résoudre les conflits ou les problèmes. Je vous donne un cas qui permet, par exemple, de savoir dans quoi vous êtes intéressant fort pour postuler. Prenons le cas d'un étudiant, d'un jeune garçon, aujourd'hui qui est adulte, hein, il est professionnel même. Quand il était depuis l'école maternelle, c'est quelqu'un qui était connu comme quelqu'un de sympa à l'école. Selon les cotes, selon les notes, pas trop intéressant. Ouais, un enfant moyen, des fois même, il est arrivé quelquefois qu'il a repris de classe. Mais c'est quelqu'un qui avait un relationnel assez intéressant. Tout le monde l'aimait, les professeurs l'aimaient et il s'exprimait bien. Il arrive aux humanités, c'est la même chose. Il s'est fait même qu'aux humanités, on arrive presque sur toutes ces années aux humanités, il était chef de classe, ok? Que fait un chef de classe? D'une certaine manière, c'est quelqu'un qui arrive à gérer quoi? La classe. C'est-à-dire que si en première année jusqu'en sixième, il était chef de classe, qu'est-ce qu'on peut se dire de ce dernier? Qu'il a probablement des compétences de gestion et de leadership. Même si c'est dans l'école, comme dans les maths, il n'est pas très intéressant, comme en physique, il n'est pas très intéressant, des fois, on l'a catégorisé, ok? Pour moi, nous, Azamaï était, parce qu'on suppose sinon l'école, souvent, que ceux qui font des très bons résultats sont les plus intelligents. Ce dernier va à la fac, à l'université. À l'université, il réfléchit, il s'est dit, les cours à caractère mathématique et autres, c'est compliqué pour moi. Mais les cours où je dois trouver des solutions de problèmes, gérer, réfléchir sur les stratégies, c'est intéressant. Il décide effectivement d'aller à l'époque en économie, gestion. Les cours d'économie sont très compliqués pour lui, mais les cours de gestion et management, excellent. D'accord ? Alors finalement, il a eu l'opportunité, comme avec les mathématiques c'était compliqué, il a eu l'opportunité de quitter l'environnement. En changeant d'environnement, il va faire des études d'ailleurs, il s'est retrouvé dans le domaine où il devait gérer les gens, les émotions et créer des stratégies. Pour la première fois dans sa vie, il distingue dans ce système. Aujourd'hui, il est un professionnel dans ce domaine-là, excellent. Et il évolue assez vite et d'une manière assez pertinente.
Savoir se positionner, savoir on est quand même bon dans quoi.
Et qu'est-ce qu'il a fait bien pour trouver un emploi? En fait, il a postulé dans une structure d'où la mission, c'est de trouver des stratégies, c'est de gérer les hommes, c'est tout ce qui est avec les recrutements. Parce que si aujourd'hui, même s'il a fait l'économie, la gestion, il sait faire la comptabilité, il va postuler à un poste d'aide comptable, excusez-moi pour les termes, mais il ne sera jamais retenu. Alors que pour un poste d'aide comptable, il aura zéro problème. Il sera parmi les plus nuls. Mais pour un poste dans un domaine de management de gestion, il est parmi les meilleurs. Vous voyez comment est-ce que ce dernier, rien que par son parcours, on a pu déterminer plus ou moins, même par rapport à sa quête professionnelle, où est-ce qu'il pourrait être, comme on dit, un poisson dans l'eau. Alors c'est le même principe, c'est le même exercice, effectivement, que si les demandeurs d'emploi se mettent à appliquer, vous vous rendez compte que très souvent, vous aurez des pistes, des solutions plus larges, plus élargies, qui vous donneront, plus on a des pistes de solutions élargies, plus on a des solutions intéressantes.
Alors, il y a trois aspects, quand même, pour un chercheur d'emploi. Il y a les compétences, il y a l'expérience, et puis il y a les diplômes. Quelle place occupe chacun de ces aspects?
Ok. Prenons l'expérience. L'expérience, c'est un élément assez important. Surtout lorsqu'il s'agit de postes de maîtrise ou des postes à responsabilité. Parce que là-dessus, il y a plusieurs théories. Okay? Il y a certaines théories qui expliquent que quelqu'un maîtrise quelque chose lorsqu'il arrive à le faire de manière récurrente, je crois, pendant une affaire de 3 ans. Okay? Après, ça peut être débattu. Parce que ça dépend aussi des capacités de chacun. L'expérience est importante, pourquoi? Parce que pour un poste de responsabilité, l'entreprise ne viendra pas vous dire ce qu'en réalité vous devez faire tous les jours. Non, on vous donne les grandes lignes et vous êtes censé le faire. Alors quand on dit expérience, c'est quoi? C'est votre faculté à savoir faire la même chose très bien. C'est-à-dire que dans le plus haut niveau de qualité...
Et vous n'hésiterez pas.
Voilà. Ou vous n'hésiterez
vous pas.
Pour ce poste-là, effectivement, il faut avoir soit de l'expérience ou alors vous avez une expérience peut-être minimum, mais vous avez des capacités qui vous permet de très bien faire ce travail. Parce qu'on peut avoir 10 ans d'expérience, mais n'est pas capable de faire quelque chose. On peut avoir 1 an d'expérience, mais être capable de faire quelque chose. Mais là, ce sont des... Là, il ne faut pas oublier. Là, ce sont des... Avoir peu d'années d'expérience, être capable de faire quelque chose très bien, c'est vrai, mais ce n'est pas toujours la généralité. En général, il faut assez de temps hein, pour maîtriser. Vous pouvez être bon dans quelque chose, c'est qui est vrai au début, mais atteindre le niveau de maîtrise, il vous faudra un peu de temps. C'est pourquoi des fois on demande des années, des années d'expérience. Alors, la qualification, moi je ne dirais pas le diplôme, je dirais la qualification. La qualification, c'est important pourquoi ? Parce que par rapport à certains domaines, prenons le cas de la médecine. Vous pouvez être médecin sans avoir fait des études de médecine. C'est aberrant, vous devenir juste médecin comme ça, mais du point de vue légal, vous serez arrêté, même si vous avez cette capacité-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a des règles, il y a une certaine déontologie. Les études sont importantes, pourquoi ? Ou les formations, hein, parce que ça te donne le schéma de pensée dont on a besoin pour tel ou tel autre poste. Ok ? Donc, ça peut être effectivement des études universitaires, une formation, que ce soit un gradual, licence ou bien master, dépendamment du degré des responsabilités aussi. Voilà. Donc, le diplôme aussi est tellement important. Et quel autre élément est les compétences ?
Les compétences.
Alors, les compétences se développent de plusieurs manières. Ça peut être des compétences que vous avez facilement, peut-être parce que vous êtes, je ne dirais pas né, mais vous avez une prédisposition peut-être à cela. Les autres, c'est parce que vous avez régulièrement fait la même chose dans votre vie courante. Vous vous rendez compte que ça existe aussi dans le monde professionnel et c'est encore plus facile pour vous de faire quoi ? De le développer. C'est aussi peut-être parce que vous avez acquis des capacités grâce à vos études qui vous ont effectivement qui vous ont conduit à développer ces compétences. Donc effectivement, les compétences sont importantes. Alors, dépendamment des postes, l'un peut être important par rapport à l'autre.
Ok. Ça dépend donc de la...
Un poste d'entry level. Vraiment entry level. On va te dire un diplôme d'État. Les restes sont juste capables de faire quoi ? De parler et d'écrire. Ok ? Donc là, pas besoin d'un master ou bien... Vous voyez ce que je veux dire ? Pour un poste, effectivement, d'un poste de responsabilité de manager, on va vous donner plus lourd. Pour un poste de chef d'entreprise... On va encore vous demander beaucoup plus lourd.
Je pense que c'est bien clair. Aujourd'hui, c'est en tout cas le premier jour. Il fallait quand même essayer d'éclairer certains aspects des bases hein, dans le marché de l'emploi et surtout dans le processus de recrutement. Je pense qu'on comprend. Et je pense que vous posez des questions. C'est qui la personne qui partage son expérience avec nous? Il s'appelle Raymo Tema. Il est spécialiste en matière de recrutement. On va passer à l'étape de confession. Alors ici, on va vraiment plus connaître notre invité du jour qui reviendra chaque fois. Il reviendra en chaque fin de mois pour nous parler des conseils pratiques sur les recrutements. Alors, qui êtes-vous ? Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Et qu'est-ce qui vous présente aujourd'hui ?
En fait, ce qui est vrai, c'est que je suis un passionné du capital humain, si on peut le dire. Pourquoi ? Parce que l'histoire que j'ai racontée tantôt de quelqu'un qui probablement à l'école, selon les standards, n'était pas considéré intelligent, c'est effectivement moi. C'est-à-dire que je suis passé par toutes ces étapes. C'est ainsi que j'ai développé cette capacité, vous voyez, à comprendre, disons, les individus, à développer des stratégies, à travailler sur des projets qui vont vraiment... dans ce sens-là. Et mon objectif, effectivement, à travers cette émission, hein, c'est d'essayer de, que vous soyez jeune, déjà professionnel ou même retraité, c'est d'essayer de vous accompagner à découvrir, comme on dit, à être un poisson dans l'eau, ok, et à savoir être le meilleur ou bien développer la plus belle qualité hein, que vous possédez, que ce soit dans vos activités professionnelles ou autres. C'est vraiment ça mon objectif et raison pour laquelle je suis même là avec vous.
Ah, ça c'est super. Donc, c'est depuis quand que vous vous êtes retrouvé dans le recrutement ?
10 ans depuis. depuis, ça fait combien d'années déjà ? Bientôt 6 ans.
Bientôt 6 ans. Et c'est... Où est-ce que la carrière a commencé ? Dans les recrutements ? C'est ça.
Il y a longtemps. Il y a longtemps, mais ce n'était pas de manière officielle, comme je disais. C'est-à-dire, dans différentes activités que j'avais à faire depuis très jeune, hein, depuis que j'étais au niveau... De la fac, avec, parce que je rappelle qu'à la fac, nous avions un système où nous avons organisé ce qu'on appelle le Student Career Care, à l'université où j'étais. Cela nous permettait effectivement de savoir orienter les uns les autres, hein, selon les facultés ou les départements. Donc déjà, depuis cette époque-là, on a développé ces différentes sensations. Ensuite, on s'est lancé officiellement dans le domaine professionnel en tant que recruteur et jusqu'à aujourd'hui.
La
et maintenant, j'ai sur les projets. Hein
ouais, c'est... Mais bien en fait, c'est important de le rappeler. Alors, la pire expérience à ce jour.
La pire expérience. Ah ouais, je crois que celle-là, elle me concerne. J'ai appliqué toutes ces méthodes qu'on vient de dire, et je me sentais, disons, powerful, c'est-à-dire que voilà, vous avez cette confiance en vous, hein. Peu importe l'entreprise et tout, vous savez que l'entretien, ça va très bien se passer. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Tous les entretiens que j'ai passés, on m'a apprécié beaucoup. L'un d'entre eux m'a dit, je me rappelle très bien, c'est une entreprise là, une entreprise intéressée qui disait, vous êtes, et il avait dit en anglais, you are an asset for any organization. C'est-à-dire que vous êtes un potentiel pour n'importe quelle entreprise. Mais vous savez ce qui s'est passé? Malgré ce qu'ils avaient dit, je n'ai pas été récolté par eux. Finalement, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui se passe ? Parce que voilà, j'applique.
C'est-à-dire que tu postules quelque part, on te sort cette phrase, tu es rassuré.
Voilà, c'est-à-dire que...
Tu t'es dit déjà, ok, oui. On va me rappeler.
C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est quoi ? C'est que par rapport au positionnement du CV, mm-hmm. Je postule, à chaque fois, j'étais rappelé pour des entretiens. Ça, c'est intéressant, déjà des entretiens. Sauf que lors des entretiens, je savais ce que je valais. L'entretien se passe très bien, mais ils disent « Oui, vous êtes un asset pour n'importe quelle organisation, mais après, on te dit « Désolé, vous ne pouvez pas. » En fait, c'était quoi le problème ? Eh bien là, je l'ai compris peut-être, j'ai compris plus tard. Comme ce que je venais de dire, j'avais des compétences qui étaient intéressantes, qui plaisaient, mais qui n'étaient pas primordiales pour les entreprises dans lesquelles j'appliquais. Mais le jour où j'ai changé de façon de faire, j'ai appliqué dans des entreprises qui sont... dans, disons plus ou moins, dans les capitales humains. Et c'est là que c'était plus facile maintenant de se faire comprendre mutuellement.
Ça, c'est très intéressant. Mais une pire expérience, finalement, qui oriente et qui crée les chemins.
Oui, c'était plus intéressant en ce moment-là, très bien, parce que voilà, c'était difficile pour moi, parce que je me disais finalement, qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire, là, en ce moment-là, les souvenirs de ce qui s'est passé à la fac plus jeune, hein, revenaient à l'école, où je me disais, donc peut-être que j'aurais dû être très bien, du coup, de maths, comptabilité, voilà, peut-être j'aurais pu trouver un travail dans ça, mais moi, je suis toujours dans mes trucs-là de management et tout, qui souvent, ce n'est pas toujours à des postes d'entry level, tu vois ? Mmh. C'est peut-être à certains postes de responsabilité, mais en persévérant, vous voyez, en persévérant, en poursuivant activement, mais de manière intelligente, effectivement, finalement, j'ai eu une opportunité qui a fait en sorte que, voilà, ensemble, nous puissions grandir et évoluer.
Alors, quelle est cette compétence professionnelle que tu qualifies aujourd'hui de ta force ?
Ça, c'est une très belle question, ça. bon, disons, sincèrement... Ce n'est pas une compétence, mais je dirais c'est un groupe de compétences. Ce sont mes soft skills. Qu'est-ce que je veux dire par soft skills ? Ok, je vais expliquer. Soft skills, c'est-à-dire, ce sont des compétences telles que le fait que j'arrive à l'esprit critique, savoir comprendre ce qui se passe, le besoin pour proposer quelque chose, la vision stratégique. C'est-à-dire que quand je vois quelque chose, je ne me résume pas au résultat à l'instant T, mais j'essaie de voir ce qui devrait être fait plus tard. Et je reviens des fois dans le passé pour, pour analyser ma capacité à savoir communiquer et à collaborer avec les autres. Ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Mais ça, ce ne sont que des ajouts sur les compétences techniques que je maîtrise. Vous voyez la différence. vous avez des compétences techniques. Quand on parle d'anciens conseils, les questions de recrutement, c'est des compétences techniques que je maîtrise. La gestion de projet, le suivi et évaluation ont des compétences, effectivement, que je possède, mais qui ne seront pas forcément pertinentes sans l'ajout des soft skills que je viens de mentionner.
Et qui sont très intéressantes, qui t'ont aidé. Forcément, je
et
pense.
Et l'anglais aussi a été un atout.
Vraiment. Et je pense qu'ils t'ont vraiment aidé dans ton parcours. Alors, on va terminer avec cette question, c'est confession. Et nous aimons des inédits, c'est jamais dit ailleurs, des exclusivités. Alors, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te tromper sur les compétences de quelqu'un après une interview? Après, tu t'es dit, non, mais ah, franchement, je me suis trompé. C'est pas vraiment le profil qu'on cherchait.
Oui, c'est vrai. C'est déjà arrivé. Au fait, c'était pas pour nous, mais c'était pour un client. Mais heureusement qu'on a su rectifier le tir. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, un CV est magnifique, magnifiquement établi. On prend la personne en entretien. Déjà, la personne a l'air d'être intimidée. Ça, on peut comprendre. Ce sont des émotions. Mais on pose à la personne des questions techniques sur ce qu'il est censé connaître. La personne était dubitative. C'était que la personne ne savait pas répondre. Elle savait rien dire jusqu'à la fin de l'entretien. Et plus tard, on découvre en réalité que la personne avait juste fait hein, une forme de... Bon, je dirais pas un copier-coller, c'est quelqu'un qui a élaboré effectivement pour lui le CV. Alors, qu'est-ce qui est intéressant? C'est que dans chaque processus de recrutement, il y a ce qu'on appelle la présélection. Dans la présélection, pour un poste, vous aurez peut-être 100 candidatures, voire même jusqu'à 500 candidatures. Pour 100 candidatures, le principe, c'est un tapis, ils disent que vous allez présélectionner, disons, 10. Quand vous présélectionnez 10, vous allez faire passer aux 10, soit des tests d'abord. Quand vous faites passer les tests ou bien les interviews, sur les 10, il va vous rester combien vous allez éliminer. Vous dites que vous allez garder que ceux avec le maximum de réussite. Vous en restez avec combien? Disons 4. Okay? Sur les 4, effectivement, vous passez un dernier interview. Et sur cette interview-là, effectivement, que vous saurez lequel est meilleur. Alors, très souvent, à moins que vous soyez vraiment quelqu'un qui a maîtrisé le système et veut tromper les gens, on arrive à découvrir sur ce long processus, sur ce schéma, ceux qui sont en réalité bons pour ce poste-là ou bien ceux qui ne le sont pas. Et c'est ainsi que ce dernier avait été déclassé et ce sont les deux autres, hein, qui bon, pas les deux, c'était les six autres qui avaient continué le processus et la présélection a été faite, trois ont été envoyés et le client avait choisi un.
Dans cette étape, il n'arrive jamais qu'un recruteur puisse se tromper?
Il arrive que quelqu'un puisse se tromper, mais le recruteur fait toujours de son mieux pour essayer de minimiser le cas.
Merci beaucoup Aurélie pour cette expérience et pour ces connaissances partagées aujourd'hui. On va encore avoir besoin de toi le mois prochain pour continuer cette discussion que nous avons commencé aujourd'hui. C'était les bases, hein. Il fallait essayer de marcher un peu sur cette question de recrutement, mais surtout le chance, hein. C'est comment maximiser ses chances pour se faire recruter. Je pense que les gens, les auditeurs qui nous suivent et qui sont à la recherche de l'emploi se font une idée sur tactique qu'il faudrait en tout cas suivre et qui ont été partagées ce soir. Merci beaucoup mesdames et messieurs de nous avoir suivis. On arrive à la fin de l'émission. Un dernier mot à dire à nos auditeurs, un conseil?
Déjà c'est un plaisir, hein? Merci beaucoup et ne vous découragez pas. Par contre, hein, essayez à chaque fois, je dirais pas de perfectionner mais d'améliorer votre tactique et votre stratégie et ça finira par payer, soit par le schéma, je dirais pas officiel, mais par le chemin standard, voilà, vous appliquez tout et tout, ou peut-être quelqu'un vous aura repéré effectivement que vous avez des compétences intéressantes et vous aura proposé un emploi.
Merci beaucoup, on se retrouve la semaine prochaine.
Dans le but de fournir une passerelle entre l'employeur et l'employé, la UFM vous propose tous les mardis
de 19h05
la U-Job. Un débat sur le sujet lié à l'emploi, des offres d'emploi et même des conseils.